France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Une grève massive débute ce matin dans les transports parisiens. La première grève contre la future réforme des retraites prévue par le gouvernement. La direction de la RATP s'attend à un trafic extrêmement perturbé. 10 lignes de métro seront par exemple totalement fermées à Paris. D'importantes perturbations sont également prévues dans les bus, les tramways, les RER A et B. 7 syndicats appellent à la mobilisation, une première depuis 12 ans. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a tenté de déminer le terrain, appelant à la confiance, la concertation, la justice et le temps quant à cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui apporte son soutien total à Richard Ferrand. La majorité plus largement s'est placée toute la journée d'hier derrière le président de l'Assemblée nationale qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Richard Ferrand est soupçonné d'avoir profité de sa position de directeur général des mutuelles de Bretagne pour favoriser sa compagne. Sa compagne d'ailleurs qui a été placée hier soir sous le statut de témoin assisté pour complicité de prise illégale d'intérêt et recel. Eux vont connaître le sort que la justice leur réserve aujourd'hui. Jugement attendu dans le procès des époux Patrick et Isabelle Balkany sur le volet fraude fiscale. Le fisc évoque 4 millions d'euros d'impayés. Lors du procès au printemps dernier, les élus de Levallois-Perret avaient admis des fautes. Patrick Balkany risque 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Un fonctionnaire de l'ambassade de France au Salvador a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir prévu des actions violentes contre des musulmans. C'était en juin dernier, mais nous l'avons appris hier. L'homme pourrait appartenir à la cellule d'extrême droite AFO, Action des Forces Opérationnelles. Et puis notons cette pression toujours très forte en Russie sur l'opposition. Hier, la police a mené une opération de grande envergure contre des collaboratoires d'Alexeï Navalny. L'opposant est visé depuis le mois dernier par une enquête pour blanchiment d'argent. Selon Alexeï Navalny, il s'agit de représailles après les mauvais scores des candidats du Kremlin lors des élections régionales dimanche dernier.
Un espace de création affranchi des codes. Le dimanche, sur France Culture, l'expérience à prolonger sous tous les formats, régulièrement en podcast original. Et si nous entrions dans les cours de récré, Aurélie Charron.
Ils sont en CM2 et en 6e. 5 enfants de 11 et 12 ans. Il y a les populaires et ceux qui ne le sont pas ou qui refusent de l'être. Les populaires, c'est un podcast en 7 épisodes, traversé d'iPhone, de Nike Air, de comptes Instagram, de passions et de disputes enflammées.
Les populaires, l'expérience en podcast original sur franceculture.fr. Décadence numéro 2 de Michel Onfray, Conquête et Inquisition. L'Empire romain converti au christianisme voit naître une religion d'État et de conquête. Dans ce deuxième et dernier volume de Décadence, Michel Onfray nous dépeint cette époque où même la philosophie se met au service de la foi pour expliquer, justifier et transmettre les mystères divins.
Il y a donc un moment dans l'histoire où apparaît le sens de l'histoire.
Décadence de Michel Onfray, l'ultime coffret du cycle Brève Encyclopédie du Monde. Un coffret de 14 CD, coédité par France Culture et l'Université Populaire de Caen.
Sur l'antenne de France Culture à 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans ce réveil culturel préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Delphine Baudet. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et ce matin, j'ai deux invités, deux autrices. Camille Royer qui publie Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis et Judith Vanistendel pour Les deux vies de Pénélope qui paraît au Lombard. Ici une petite fille qui a peur que sa mère la quitte, là une mère obligée d'abandonner sa fille et sa famille pour des missions humanitaires. Dans les deux bandes dessinées, les héroïnes ou les protagonistes principales vivent entre deux mondes, ici en Europe, Paris ou Bruxelles, et là-bas, au Japon ou en Syrie. Alors comment concilier les deux vies, les deux mondes, les deux cultures ?
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Camille Royer.
Bonjour.
Et bonjour Judith Vanistendel.
Bonjour.
Vous avez eu un accident ?
Oui. Un accident de vélo.
De vélo.
Oui.
Et du coup, votre main, votre gagne-pain est bloquée.
Non, c'est la main droite, c'est le coude qui est cassé, mais je suis gauchère.
Vous dessinez avec la main gauche?
Oui.
Camille Royer, et vous êtes gauchère aussi?
Non, je suis droite.
On va commencer par vous, Camille Royer, parce que c'est votre première radio, je suppose,
oui.
et votre premier album qui sort chez Futuropolis, Mon premier rêve en japonais. Parlez-nous de l'héroïne, de cet enfant, Camille, qui s'appelle comme vous.
Oui, parce que c'est moi, donc je raconte mon enfance, et donc c'est la petite Camille qui a 8 ans, et... On la suit dans toutes ses petites péripéties et surtout au moment du coucher où ses parents ont du mal à la faire dormir parce que voilà, elle a peur des fantômes, elle a peur des monstres. Et sa mère, qui est japonaise, va lui raconter tous les contes japonais de son enfance. Et donc voilà, ça va, c'est là que commence le livre.
Avec cette peur qu'a cette fille, c'est que sa mère quitte la France, la maison, pour retourner au Japon.
Oui, parce que pendant toute la bande dessinée, la mère regarde un peu vers le passé et on est témoin sans vraiment comprendre d'une sorte de drame familial où on sent que ça s'est pas bien passé du tout avec la famille au Japon et elle ne les voit plus, elle ne voit plus sa mère, elle ne voit plus sa sœur et du coup c'est vrai que la petite Camille a l'impression que la mère a sacrifié sa vie pour venir en France et s'occuper donc et avoir ses enfants et que là elle regrette. Et qu'elle aimerait en fait finalement retrouver sa mère au Japon et les quitter.
Pour faire votre première bande dessinée, il a fallu que vous alliez vous-même au Japon, Camille Royer.
Oui, parce que du coup, vu que cette histoire est vraie, c'est vrai que j'avais une relation très conflictuelle avec ce pays.
Ce pays qui menaçait de vous séparer de votre mère.
Voilà, c'est ça. Donc ça avait une connotation très négative. Et finalement, quand ma première année d'études à l'école Estienne, j'avais un stage à faire. Et je me suis dit, je vais créer ma propre histoire avec mon pays, qui n'a aucun lien avec cette famille que je connais pas. Et ce sera par l'art, ma passion. Et du coup, je suis partie 2 mois faire un stage chez un illustrateur japonais.
Et la culture japonaise, c'est aussi la culture des contes.
Oui.
Et c'est très important dans votre livre, parce que la petite Camille, elle vit aussi dans ce monde-là.
Ah oui, totalement. Ça nourrit presque son quotidien au bout d'un moment, parce que ces contes vont l'aider à expliquer ce qui se passe dans la vraie vie. Ils vont faire résonance avec les épreuves qu'elle vit tous les jours. Donc ça va parler d'une femme qui disparaît, de la mort.
Donc initiation à la vie et surtout à une culture qu'on a envie d'avoir, de s'approprier pour se rapprocher le plus possible de sa mère, qui passe par de la fiction, par des contes, par des histoires de fantômes, de monstres.
Oui, parce que c'est vrai que pour cette petite fille, toute l'histoire de sa mère... elle est imaginaire presque, parce qu'elle a jamais vu de photos, elle a jamais été, elle a jamais vu cette famille. Et donc du coup, c'est comme une enfance imaginaire qu'elle essaye d'inventer à sa mère. Et donc là, ça passe par les contes et ça passe du coup par l'imaginaire et l'onirique pour recréer un passé qui n'existe presque pas.
Avec un traitement graphique qui épouse justement les questionnements de votre héroïne, puisque vous passez du noir et blanc à la couleur, du crayonné au dessin. Expliquez-nous ça, Camille Royer.
En fait, j'avais vraiment envie de focaliser les scènes quotidiennes et banales en noir et blanc, donc enfin au niveau de gris au crayon. Et dès que de l'imaginaire arrivait, donc que ce soit un conte, un rêve, un cauchemar, ou à la fin, quand l'imaginaire... prend pas sur le réel, je voulais que là il y ait de la couleur et du coup j'ai utilisé du pastel.
Pastel éclatant.
Voilà, que j'ai dilué avec de la térébenthine pour créer un effet très brumeux et un effet mystérieux comme ça de rêve.
Est-ce que cette narration, est-ce que votre première bande dessinée, mon premier rêve en japonais, répond aussi à une forme, concilie les deux formes de narration, c'est-à-dire d'une narration japonaise pour les mangas et d'une narration franco-belge, allez, disons franco-belge.
Oui, j'ai jamais voulu faire juste de la narration franco-belge, parce que moi, toute mon enfance, j'ai lu des mangas, et pour moi, les moments d'humour dans la BD, je les trouve, ils font très manga, en fait. C'est très dynamique, il y a des mimiques, et ça, pour moi, c'était très important de le mettre, parce que c'est ce qui me faisait beaucoup rire quand j'étais petite.
Diriez-vous que c'est un livre introspectif?
Ah oui.
Vous n'êtes pas très tendre avec l'enfant que vous avez été, non. Camille Royer?
Non, c'est vrai, oui. Mais c'était important pour moi de retranscrire la réalité, dans le sens où j'étais vraiment pas la petite fille sage qui se salissait pas, etc. J'étais la petite fille insupportable qui criait tout le temps, qui pétait, qui faisait n'importe quoi.
Mais vous expliquez très bien que tout cela avait une raison, cette peur de perdre sa mère.
Oui, Oui. Elle avait tout le temps. Enfin, c'est vrai que j'avais vraiment cette peur et c'est même le cauchemar dans le livre en dit long. C'était qu'elle rejoigne sa mère et du coup, c'est vrai que je pense que c'est une petite fille agitée parce qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne comprend pas.
Est-ce que vous savez que Judith Van Istendael, elle, avec les deux vies de Pénélope, raconte l'histoire d'une mère qui est obligée de quitter sa fille?
Je l'apprends maintenant.
Judith Van Istendael pour les deux vies de Pénélope au Lombard, on en parle dans un instant.
Aïe, c'est le Anata. Amai, yume o mimashou. Toi, kuni de, ishu ni kurasou yo. Jiyu ni aishi atte. Itsukushimi, soshite, shinu no.
Maya Barou, elle est comme vous, Maya Barou, Camille Royer. Elle est allée au Japon pour s'imprégner de la culture de sa mère. Et là, elle chante aussi bien en japonais qu'en français. Camille Royer, vous qui venez de publier chez Futuropolis Mon premier rêve en japonais, est-ce que aujourd'hui vous parlez aussi bien le japonais que le français?
Pas aussi bien. Je me débrouille, je peux bien comprendre, je peux avoir une conversation, mais je ne peux pas aller dans les détails vraiment.
Vous êtes réconciliée avec cette culture?
Oui, maintenant oui.
Camille Royer, vous publiez donc Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis et Judith Van Istendael, elle publie Les deux vies de Pénélope au Lombard. La mère qui est obligée d'abandonner sa fille dans votre histoire, elle le fait parce qu'elle est chirurgienne et surtout qu'elle a décidé d'aller opérer dans des zones en guerre. Et là, en l'occurrence, quand on fait sa connaissance, le temps d'un voyage de retour, quand elle retourne chez elle à Bruxelles, elle revient de Syrie.
Oui, elle est médecin chez Médecins Sans Frontières. Elle est envoyée en mission dans des zones de guerre pour sauver des vies humaines.
Et dans un style réaliste ou semi-réaliste, on voit bien que cette Pénélope-là, votre personnage médecin, chirurgienne, qui à chaque fois qu'elle revient chez elle se rend compte qu'il se passe quelque chose, que la vie familiale continue sans elle, elle éprouve quel genre de sentiment? D'impuissance, de regret, de colère, parce qu'elle a envie de concilier deux vies qui ne sont pas du tout conciliables. Comment définiriez-vous ces sentiments?
Elle ne sait pas très bien ce qu'elle ressent. Donc elle a besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce que ça fait de partir dans ces zones de guerre et de violence et de revenir chaque fois et ne pas arriver à partager ce qu'elle a vécu là-bas. Donc elle a besoin d'années, donc elle fait ça depuis 10 ans, pour comprendre que c'est impossible de connecter ces deux vies-là.
Alors, elle peut exprimer sa colère que ses proches, que les gens à Bruxelles ou en Occident d'une manière générale ne comprennent pas le chaos de la guerre en Syrie, le chaos d'où elle vient, mais il y a une autre violence qu'elle a du mal à exprimer, c'est sa douleur de quitter quand même sa fille et sa famille.
Oui, oui. Et elle se rend compte de ce sentiment au moment où il y a une fille qui a exactement le même âge que sa fille.
Et qu'elle n'a pas pu sauver en Syrie.
Elle meurt, cette fille.
Ouais.
Et elle se rend compte, quand elle arrive à Bruxelles, que cette fille morte est revenue avec elle. Elle a fait le voyage avec elle. Et elle vient habiter chez elle, dans son lit, en forme de petit fantôme rouge, sanglant. Et donc, c'est là qu'elle commence à se rendre, à voir le problème, le conflit dans lequel elle se trouve. Voilà, elle est perturbée. Au fond d'elle, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, ce qu'elle veut faire. Mais bien sûr, il y a les gens qu'elle aime, qui ne veulent pas qu'elle quitte.
Sa sœur, sa mère, sa famille, son
mari,
son poète de mari qui reste à la maison.
Oui, ses proches, qui attendent autre chose d'elle, bien
mais
sûr.
Mais elle va repartir.
Elle part, oui.
D'ailleurs, vous
elle
jouez...
Elle quitte son enfant.
Vous jouez très bien avec le prénom de votre personnage principal. Elle s'appelle Pénélope, mais c'est pas la Pénélope qui reste et qui attend son mari. C'est les rôles sont renversés. Pénélope part toujours. C'est elle, la Ulysse moderne et humanitaire.
Oui. L'idée pour le livre est venue du fait que je me disais, je suis autrice, on dit maintenant en France. Faisant des histoires, c'est toujours bien de connaître les histoires de base de sa culture. Bon, et moi je suis occidentale, je suis belge, et une des histoires les plus importantes est celle de l'Odyssée, donc d'Homère. J'ai lu le livre, il est incroyable, il est long, il est beau, il est littéraire, il est complexe, et il est fondamentalement pas gentil avec les femmes. Les femmes sont traitées vraiment comme des objets. Mais elles sont données cadeaux, elles sont violées, elles sont...
Il y a le sens de sacrifice de Pénélope.
Déjà, l'héroïne, elle reste à la maison et elle attend. Et elle est très intelligente et très belle, mais elle attend. Et c'est Ulysse qui vit, qui a les aventures, qui fait l'amour, qui vit. Et elle attend. Je pense que je ne suis pas la première à le faire, mais j'ai voulu donner une autre vie à Pénélope. Elle le mérite quand même.
Une Pénélope moderne,
oui.
Chirurgienne,
faisant qui part.
Voilà, médecin sans frontières.
Oui. Et donc dans l'Odyssée, Odysseus et Pénélope ont un fils, Télémachus. Mmh, ici, ils ont une fille, elle s'appelle Hélène, c'est aussi un nom grec, la belle Hélène, qui est en puberté. Elle a ses menstruations, elle a besoin de sa maman et sa maman n'est pas là.
Pourquoi raconter cette histoire, Judith Van Nistendael? Comment a commencé justement cette idée de faire cet album, Les deux vies de Pénélope?
Mais c'est vraiment venu de l'idée, je vais regarder un classique, je vais lire un classique et je vais regarder ce que je pourrais en tirer. Qu'est-ce que ça me rapporte à moi? Qu'est-ce que je peux faire comme autrice avec une histoire tellement vaste et énorme? En même temps, j'ai toujours eu l'idée de faire une histoire, j'ai toujours voulu faire ça, qui parle de son engagement vers sa famille, l'engagement intime, génétique presque, on dirait, et l'engagement vers l'humanité en abstraction. Donc l'engagement qu'on a comme être humain sur cette terre. Parce que, et ça a l'air énorme, mais aussi, chacun qui a un boulot, il a un engagement vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Et donc je voulais parler de ce conflit. Je pense que beaucoup de gens le ressentent, et moi personnellement je l'ai ressenti. J'ai deux enfants, ben, ça prend du temps. Ça m'oblige à rentrer le soir pour donner à manger à mes enfants. Comme ça je peux pas continuer à travailler. Et c'est pas facile, c'est pas gai toujours, c'est ça. Et donc ce conflit-là m'intéresse.
Et graphiquement, vous avez décidé d'épouser une technique plutôt très légère, hein, des aquarelles, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a la vie réelle et puis il y a aussi tous ces traumas qui poursuivent votre Pénélope, cette fille morte à Alep qu'elle n'a pas pu sauver et qui est représentée carrément dans ce dessin. Une tache, ouais.
Elle a une tache, mais ouais. Tout est une tache dans cette BD.
Bah oui.
Tout est une tache. Mais ça, c'est plutôt... Bon, au début, c'était un choix physique. J'ai dessiné des BD énormes de 400 pages, 280 pages. J'ai très mal aux épaules. même si j'ai cassé le coude maintenant, en général, j'ai très mal aux épaules. Donc, dessiner, pour moi, c'est vraiment, c'est douloureux. Donc, j'ai cherché une technique légère, le plus léger possible, c'est-à-dire l'aquarelle qu'on jette en quelques taches sur une page, avec quelques traits noirs, le moins possible. Et ça, c'est vraiment physiquement un choix. Mais bon, après, bien sûr...
Ça ne réussit pas à tout le monde, hein, cette formule. Hein.
Non.
Non, mais les auditeurs, ils vont croire qu'on va pouvoir faire une bande dessinée avec des taches d'aquarelle comme
mais
ça.
Mais je l'ai faite. C'est des taches d'aquarelle.
Non, mais on reconnaît les personnages, c'est découpé,
oui, oui, mais
c'est dessiné.
Dans la base, si tu enlèves les lignes noires, en fait, c'est surtout des taches. J'ai dessiné hyper vite, c'était très vite fini le dessin, parce que c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Bien sûr, il faut maîtriser l'aquarelle, bien sûr. Je dis pas que c'est pas facile si on ne maîtrise pas. Si on maîtrise, c'est hyper facile parce que ça va hyper vite. J'ai fait le crayon couleur, c'est beaucoup plus intense à travailler. Ça prend beaucoup plus de temps. L'aquarelle, c'est quelque chose d'éphémère. Et aussi de perte de contrôle. Mmh. Mais en même temps, après, je me suis dit, bon, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne bien avec Pénélope parce qu'elle-même, elle a perdu un peu le contrôle de sa vie. Elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans le chaos dans sa tête. Il y a un fantôme qui vient dans sa vie sans qu'elle le veuille. Et donc, voilà, j'ai trouvé que l'aquarelle était parfaitement adaptée à ce que je voulais raconter. Donc, j'ai eu de la chance. Mais le début, c'était vraiment un choix parce que ça fait mal.
Camille Royer, dans son premier album, Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis, finit sur une note plutôt optimiste. Ah, l'héroïne finit par réconcilier ses deux vies. Ce n'est pas le cas avec votre Pénélope, dans les deux vies de Pénélope, Judith Van Istendael.
Moi, je ne trouve pas trop pessimiste non plus. Elle fait un choix qui est très clair. Elle le fait parce qu'elle le veut vraiment. Donc, c'est pas très négatif, je trouve. C'est dur pour sa fille, mais en même temps, quand on lit le livre, on voit qu'il y a un père magnifique. Il y a une grand-mère un peu, je suis pas toujours magnifique, mais quand même, une chouette grand-mère et une sœur insupportable. Elle est entourée, donc elle ne laisse pas sa fille juste comme ça. Et en plus, son mari, qui l'aime beaucoup, comprend le choix. Il comprend. Donc, je trouve...
Il faut dire que son mari est poète.
Il est poète. Très doué. Très, très, très doué. Et il est un père magnifique.
Au lieu
gentil,
de tisser des...
Il comprend.
Eh ben, il écrit.
Il écrit, oui. Des poésies sur sa famille. Très douce.
Il y avait aussi des questionnements de votre vie en tant qu'autrice et mère, Judith Van Istendael, dans ce récit, les deux vies de Pénélope.
Bon, pour être très concret, ça se déroule dans ma maison et la fille de Pénélope, dans le livre, c'est ma fille. Parce que quand j'ai voulu créer un caractère d'une fille en puberté, ma fille avait 13-14 ans et elle était parfaite. Elle était parfaite pour ce personnage. Mais personnellement, la seule chose que je pourrais dire, c'est que quand j'ai eu des enfants, j'ai eu l'envie de partir. J'ai eu... une urgence de partir, je veux pas ceci. C'était un choc pour moi avoir des enfants. Mais j'ai choisi de ne pas partir. Je suis restée et je suis une maman poule, on dit en français. Donc, je m'identifie moi-même plutôt avec Otto. Je dirais plutôt avec lui le besoin d'une vie familiale, de création artistique, etc. C'est une histoire que j'ai voulu raconter parce que j'ai ressenti vraiment cette urgence, ce besoin de partir, mais je sais aussi que c'est un choix. Donc c'est une histoire d'une femme qui choisit.
Merci beaucoup, Judith Van Istendael.
Merci.
Les deux vies de Pénélope sort au Lombard. Et merci, Camille Royer.
Merci beaucoup.
Pour votre première bande dessinée que je recommande tout autant, Mon premier rêve en japonais chez Futuropolis. Merci beaucoup.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Jane.
je crois que c'est la première fois que je fais une émission autour de la bande dessinée entourée d'autant de femmes. Il n'y a pas que Judith Van Nistelrooy et Camille Royer ce matin au studio de France Culture pour le Réveil Culturel. Il y a aussi Sonia Deschamps, notre amie partenaire du magazine Casemate. Sonia Deschamps, bonjour, ravie de vous retrouver.
Bonjour à tous.
Et est-ce qu'on peut dire que cette rentrée littéraire au rayon BD se décline au féminin cette année?
Mais absolument, avec de très très bons albums. Isabelle Pralon, par exemple, publie avec Irène de Santa Anna « Je suis au pays avec ma mère », c'est publié chez Atrabile. Alors Irène de Santa Anna, elle est psychologue, elle a rencontré il y a plusieurs années Cédric, un jeune requérant d'asile originaire d'un pays d'Afrique de l'Ouest, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, et qu'elle a eu donc en consultation 2 ans après son arrivée. Cédric venait alors de passer 3 mois à dormir dans les parcs après le rejet de sa demande d'asile. Dans son pays, Cédric a fait de la prison, sans raison, on l'a pris pour un émeutier qu'il n'était pas, il allait seulement prévenir un ami de la famille que son père était décédé. Il a ensuite fui en Europe et c'est depuis la Suisse qu'il a appris la mort de sa mère. C'est une histoire terrible comme il en existe malheureusement beaucoup d'autres, mais ce qui est passionnant avec ce livre, c'est que précisément Isabelle Pralon ne nous raconte pas en bande dessinée le parcours de Cédric, il ne s'agit pas d'une biographie dessinée. Les courts textes d'Irène de Santa Anna nous permettent de comprendre le parcours de Cédric et d'avoir accès à ses questionnements, mais la dessinatrice, elle s'est emparée des rêves que Cédric a raconté à Irène de Santa Anna pour leur donner forme. Il y a de la poésie dans ces courtes bandes dessinées, une poésie dure, éprouvante. Isabelle Pralon réussit à faire de son dessin en fait une évidence. Comment autrement que par son trait, que par ses compositions, nous procurer ses sensations, ses émotions? Une façon différente de raconter l'exil de ce qu'en tout cas moi j'ai pu lire jusqu'à présent. C'est un album extrêmement puissant.
Je suis au pays avec ma mère d'Isabelle Pralon. C'est édité chez Atrabile. Et puis une autre bande dessinée que vous m'avez conseillée, Sonia Deschamps, et qui est très bien, c'est Nagasaki.
Exactement.
D'Agnès Ostache, publiée au Lézard Noir. Et c'est l'adaptation d'un roman d'Éric Faye.
Oui, c'est la première production maison du Lézard Noir, un éditeur de manga Poitevin qui édite déjà d'excellentes œuvres japonaises telles que La Cantine de Minuit ou Shizakobe. On en a parlé ici. Alors Nagasaki, c'est l'autoportrait de Shimura-san, quinquagénaire déçu de l'être si tôt et si fort. Shimura, il est météorologue, il est célibataire et un jour, il a ce sentiment de ne pas être seul chez lui. Il croit remarquer que quand il rentre le soir, certaines choses ne sont pas tout à fait à leur place, mais vraiment de quelques centimètres, qu'il manque parfois un yaourt ou quelques centimètres de jus d'orange. Alors il va chercher à démasquer l'intrus. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est d'une beauté folle. Agnès Ostache a un sens du cadrage qui porte vraiment, vraiment le texte. Une attention particulière est portée à chaque objet, pantoufle, horloge, tiroir, brosse à dents. Le dessin et les couleurs font que chaque parcelle de page est chargée d'émotions. Il y a vraiment un sens de la composition assez époustouflant. Bref, c'est un album magnifique.
L'album d'Agnès Ostache, Nagasaki, est publié au Lézard Noir. Très bel album, vous avez raison de préciser, Sonia Deschamps, mais on va quand même terminer cette sélection rentrée avec peut-être des histoires un peu plus légères.
Oui, de la légèreté qui n'exclut pas profondeur, tout à fait. Tulipe et les sorciers, c'est publié chez 2024. On retrouve l'ours Tulipe de Sophie Guérive que certains connaissent peut-être déjà. Gros coup de cœur à chaque fois, des histoires courtes d'une page dans lesquelles on retrouve donc Tulipe adossée inlassablement à son arbre, mais aussi ses camarades, Crocus le serpent qui se croit prophète, Violette l'oiseau qui cherche toujours à entrer en contact avec son amoureux, le soleil, et puis il y a l'œuf qui devient trèfle, une tortue qui va entreprendre un grand voyage à quelques buissons de là, et toujours Caillou qui désespère de n'être qu'un caillou. Ouais. Le monde de Tulipe, c'est un monde peuplé d'animaux existentialistes qui nous touchent parce qu'ils nous renvoient forcément à notre condition humaine. Il y a du Mafalda dedans, du Peanuts aussi. J'ai aussi pensé à l'ours Barnabé de Jean-Luc et Philippe Coudray. C'est drôle, fin, plein d'esprit, à lire absolument à tout âge.
Allez, un tout dernier. Mais alors très très rapidement, Sonia.
Promis. Dans la collection BDQ des requins-marteaux, DS d'Aude Picot,
oui.
L'autrice revisite le mythe d'Adam et Ève sous l'angle du plaisir, du désir. Et c'est détonnant pour un public averti, évidemment.
Bref, les femmes sont très présentes dans cette rentrée littéraire. Au rayon BD, bien sûr, Sonia Deschamps.
Partout.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Je vous souhaite de passer un excellent vendredi avec France Culture, un très bon week-end. Nous, on se retrouve lundi avec une autrice, Justine Beau, pour son roman paru chez Grasset, Onanisme. À bientôt.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
le dimanche à 12h45 sur France Culture, Signe des temps par Marc Bitzman.
Les écrivains, les cinéastes, les metteurs en scène envisagent le monde autrement que le font les politiciens, les sociologues et les journalistes. Ils posent d'autres questions et quand ils posent les mêmes, ils les posent différemment.
Elle a travaillé 2 ans dans une maison close de Berlin et signe un roman vécu, La Maison. Quête de soi dans l'oubli de soi, que dit-elle d'aujourd'hui, de ses sœurs de combat, des hommes? Où en est le féminisme dans l'après-MeToo et la libération de la parole? Signe des temps avec Emma Becker, ce dimanche à 12h45 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le soleil s'apprête à se lever sur une capitale obstruée, paralysée. À Paris, la grève du jour à la RATP s'annonce très suivie dans les transports. Les salariés protestent contre la réforme des retraites, voulant défendre leur régime spécial. Le Premier ministre Édouard Philippe leur a répondu hier soir, vous l'entendrez. Parole donnée également dans ce journal au patron d'Air Caraïbes. Il a déposé une offre de reprise partielle pour la compagnie aérienne Aigle Azur. Le sort des salariés, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, dit-il au micro de France Culture. Nous irons ensuite en Tunisie. À 2 jours de la présidentielle, le favori des sondages est en prison pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Et puis nous irons aux Bahamas, où les habitants redoutent l'arrivée d'une nouvelle tempête tropicale. Édouard Philippe a tenté hier soir sur le plateau du 20h de TF1 de déminer le terrain de la future réforme des retraites. L'exécutif souhaite boucler ce dossier d'ici l'été prochain. Le Premier ministre a donc insisté sur la méthode et sur la dimension universelle et unique des régimes de retraite. Des propos qui faisaient écho à la première grève sur cette réforme. Elle démarre ce matin à la RATP à Paris, entreprise des transports en commun en région parisienne. De très grosses perturbations sont donc à prévoir. 10 lignes de métro ne fonctionne pas. Pour Édouard Philippe, pourtant, même les salariés de la RATP devront faire un effort. Il a fait passer le message via une comparaison.
Le chauffeur de bus du Havre, ou de Bordeaux, ou d'où vous voulez, il a parfois exactement le même travail que le chauffeur de bus de la RATP, dans les mêmes conditions, en tout cas avec des contraintes approchantes. Et il a un régime de retraite qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on ne peut pas essayer, alors qu'il n'y a pas d'urgence, essayer de refonder totalement un système pour faire en sorte qu'il soit universel, pour faire en sorte qu'il soit solidaire, pour faire en sorte qu'il continue à fonctionner par répartition, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. On peut toujours prendre en compte des situations qui peuvent être des situations particulières, les carrières longues, on pourrait évoquer la pénibilité, elle est déjà prise en compte aujourd'hui dans le système actuel, elle a vocation évidemment à être prise en compte dans le système futur, mais l'objectif, c'est bien de créer un système universel dans lequel chaque euro cotisé par chaque Français produit le même effet, ce qui est un élément de justice extrêmement important, ce qui permet aussi pour beaucoup de Français de passer d'un métier à l'autre, d'un statut à l'autre, sans subir les aléas au moment de sa retraite.
Précisons que la réforme des retraites doit être pleinement effective en 2040, c'est-à-dire 15 ans après son entrée en vigueur prévue, elle, en 2025. La compagne de Richard Ferrand a été placée hier soir sous le statut de témoin assisté pour complicité de prise illégale d'intérêts et recel. Il s'agit toujours de l'affaire des mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand, lui, rappelons-le, est mis en examen parce que les mutuelles de Bretagne qu'il dirigeait alors avaient décidé en 2011 de louer des locaux commerciaux appartenant à sa compagne. Le camp macroniste a fait bloc hier autour de lui pour qu'il conserve la présidence de l'Assemblée nationale. C'est aujourd'hui que le jugement pour Patrick Balkany doit tomber, tout à l'heure en tout cas une partie du jugement, puisque le tribunal correctionnel de Paris se prononcera sur le volet fraude fiscale. L'élu de Levallois-Perret risque 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Sa femme et première adjointe, Isabelle Balkany, encourt elle 1 an de prison ferme. Google accepte de verser près d'1 milliard d'euros à l'État français. Le géant du numérique souhaite ainsi régler définitivement ses vieux litiges avec l'administration fiscale et avec la justice. Il s'agit donc de taxes et d'une somme d'argent versée en échange d'un arrêt des poursuites en France. Un nouveau comité d'entreprise d'Aigle Azur se réunit aujourd'hui au siège de la compagnie aérienne à Orly. Les syndicats doivent analyser les 14 offres de reprise qui ont été déposées par les repreneurs potentiels. La décision du tribunal d'Evry sera faite lundi. 2 offres semblent se dégager pour le moment. Celle d'Air France, qui reprendrait l'activité moyen courrier, ainsi que 70% des salariés, sous condition. Il y a également l'offre d'Aigle de d'Air Caraïbes, l'offre d'Air Caraïbes qui reprendrait de son côté une centaine de personnes sur 1500 salariés et qui reprendrait l'activité long courrier. Le président du directoire d'Air Caraïbes et de French Bee, Marc Rochet, a évoqué cette offre au micro d'Hakim Kasmi.
Dans Aigle Azur, il y a une petite partie d'activité long courrier dans laquelle malheureusement Aigle Azur n'a pas rencontré le succès pour tout un tas de raisons diverses et complexes. C'est cette partie-là qui peut nous intéresser. Deux avions qui sont compatibles avec notre flotte, sinon on n'aurait pas regardé. Des personnels qui ont leurs compétences et puis des slots. Donc soit notre offre est retenue, soit elle ne l'est pas. Et en fonction de ça, on décidera de notre avenir comme on l'a toujours fait.
Alors sur quelle destination ?
Les destinations qui sont encore vivantes chez Aigle Azur en long courrier, c'était Bamako qui est maintenant arrêté et le Brésil qui a connu des difficultés sérieuses dans sa relation avec Azul. Donc on essaiera de reconstruire ça. On fera tout pour réussir si ça nous est attribué.
Qu'est-ce que vous pensez apporter de plus qu'on n'a pas su faire avec l'Azur ?
Notre technicité, notre rigueur et notre flotte.
Alors sur les salariés, bien sûr, les conditions ne seraient plus les mêmes si vous les repreniez.
Oui, mais ça, alors écoutez, c'est des sujets médiatiques, complètement sociaux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler des gens compétents, motivés. C'est comme on l'a fait depuis le début d'Air Caraïbes, les rémunérer correctement, les intéresser très fort aux résultats. On parle d'avenir, on ne regarde pas le passé et encore moins le code de l'aviation civile d'il y a 50 ans.
C'était le président du directoire d'Air Caraïbes, interrogé par Hakim Kasmi. La présidentielle tunisienne a lieu dans deux jours, ce dimanche. 26 candidats sont toujours en lice et en ce moment les projecteurs sont braqués sur Nabil Karoui, un sulfureux patron de télévision qui est en tête des sondages alors qu'il est en prison depuis près de 3 semaines. Nabil Karoui est poursuivi pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, Maureen Mercier.
On le surnomme souvent le Berlusconi tunisien. Sa popularité la tient de son émission dans laquelle on le voit sillonner le pays pour aider les plus démunis. Ziad Kirchen, éditorialiste et analyste politique.
C'est une forme de populisme qui joue sur la misère des gens. Imaginez que la première chaîne du pays TF1 ne reconnaisse plus la CSA et se comporte comme une chaîne voyou, totalement au service de son patron, qui lui fait de la propagande 10 heures par jour. La chaîne de Karoui n'a fait que cela pendant 3 ans.
Nabil Karoui martèle qu'il est un candidat anti-système, que lui saura abolir la pauvreté, que les partis traditionnels ont échoué. Il y a 3 semaines, coup de théâtre, Nabil Karoui est inquiété par des procédures judiciaires depuis des années, mais là, il est arrêté, emprisonné en détention préventive. Pour Ziad Kirchen, il ne fait aucun doute que le pouvoir a voulu l'écarter, mais cela s'avère parfaitement contre-productif.
Toute cette opération-là va le mettre sur une rampe de lancement extraordinaire.
Nabil Karoui est un publicitaire. Il sait retourner ses mésaventures en opportunités. Son porte-parole, Abdelaziz Belkodja, est gonflé à bloc.
Avec la force du suffrage universel, M. Karoui sortira de prison. Pour nous, c'est l'armée qui transférera M. Karoui de la prison à la présidence. Ce sera quand même une sacrée première dans l'histoire.
La Cour de cassation tunisienne doit examiner aujourd'hui un recours contre l'arrestation de Nabil Karoui, selon ses avocats. Si la justice le maintient en détention, la situation risque de devenir surréaliste. Dimanche, l'homme d'affaires pourrait passer le premier tour depuis sa prison.
Et nous reviendrons plus largement sur les élections tunisiennes avec Julie Gacon dans ses enjeux internationaux. Ce sera à 6h45 tout à l'heure. Aux États-Unis, les prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 se sont affrontés cette nuit lors d'un débat télévisé. Ils sont 10 toujours en course avec un trio de têtes composé du socialiste Bernie Sanders, de la progressiste Elizabeth Warren et de l'ancien vice-président Joe Biden. Les conditions météo pourraient de nouveau se dégrader aux Bahamas 10 jours après le passage de l'ouragan Dorian. Une tempête tropicale s'en approche, apportant de grosses pluies sur les îles Abaco. Thibault Lefebvre est sur place pour Radio France, où les habitants et les organisations humanitaires se souviennent et envisagent le pire.
Gary raconte avec une précision clinique les 40 heures qu'il a passées à protéger sa femme et ses 2 filles de l'ouragan Dorian. Plus de 10 jours après la catastrophe, il ne veut surtout pas revivre les mêmes scènes.
Quand il commence à pleuvoir, j'ai l'impression que la tempête revient. J'ai des flashbacks, je vois des débris voler. La tempête revient, elle revient. Vous voyez ce que je veux dire? La tempête pourrait arriver, elle ne sera pas aussi grosse que Dorian, mais moi je le ressens comme ça. comme ça. Ça pourrait me causer un nouveau traumatisme. Je vais faire mes affaires et partir. Je ne resterai pas.
Et pour les derniers habitants qui ne pourront pas quitter l'île faute de moyens ou d'informations, les associations humanitaires commencent à travailler sur un plan d'urgence.
Les gens doivent savoir où se trouvent les abris qui ont résisté à Dorian. Mais s'ils vivent dans des abris de fortune comme des tentes, ils ne survivront pas à un nouvel ouragan. Les routes pourraient être bloquées, inondées, comme dans les îles Vierges il y a 2 ans. L'ouragan Irma est passé par là, suivi 10 jours plus tard de l'ouragan Maria, et après l'ouragan, il a plu pendant 18 heures. Les gens qui avaient commencé à reconstruire sont repartis de zéro.
Pour aider les ONG et les forces armées bahaméennes, des renforts sont arrivés hier sur Abaco. 200 soldats néerlandais et allemands et 50 français.
C'était Thibault Lefebvre avec Gilles Gallinaro aux Bahamas, où 1300 personnes ne sont pas encore localisées. Le bilan officiel reste de 50 morts. La météo en France avec des pluies matinales près des côtes de la Manche et de la mer du Nord. Le soleil ailleurs sera bien présent. Ce matin, il fait 19 degrés à Lille, 20 à Paris, 22 à Bordeaux et déjà 28 degrés à Marseille. Et c'est le temps des vendanges. Jacques Meunier, bonjour.
Oui, bonjour Clara, il va faire beau.
Il va faire beau pour aller récolter le raisin, les vendanges, Jacques, oui. À 6h40 sur France Culture dans votre journal des idées. C'est l'occasion pour vous de parler de la vigne, du vin, mais aussi du monde rural en pleine activité depuis l'été.
Oui, la revue Le Rouge et le Blanc fête ses 35 ans d'existence. Et pour l'occasion, elle publie un supplément sur les cépages voyageurs, Syrah, Malbec et Trousseau. La Syrah en particulier fait partie des 10 cépages les plus présents dans le monde. Si les plus chauvins d'entre nous pensent que le Rhône nord et sud, ainsi que le Languedoc et le Roussillon sont ses terrains de jeu préférés, les États-Unis, l'Afrique du Sud et surtout l'Australie produisent de très grands vins de Syrah, expliquent Yahir Tabor et Julien Marron, qui ajoutent l'Espagne, le Maroc et le Liban. Les hypothèses anciennes sur son origine géographique, romaine, syriaque, perse, grecque, sicilienne ou albanaise, ont toutes été démenties par les études ADN. On sait maintenant que la Syrah provient d'un croisement de mondeuse blanche et de douraisa. Ce dernier cépage étant originaire du nord de l'Ardèche. La toponymie confirme d'ailleurs, puisque la Syrah ou Serine a comme radical Serre, qui désigne une montagne allongée ou arrondie dans le midi de la France et qui a donné Serra en portugais et Sierra en espagnol. Comme à son habitude, la revue a organisé une séance de dégustation avec des vins de 4 pays différents. J'ai choisi un Saint-Joseph du domaine Bernard Grippa et c'est tout un poème. Le nez est marqué par des notes fumées, balsamiques, voire empyromatiques, torréfaction, réglisse, dans lesquelles percent également des fruits noirs confiturés, cassis, myrtille et un reste de boisé précieux. Trame soyeuse, velouté caressant, la finale est salivante, légère, presque aérienne, au tanin fin où le sauvage le dispute aux vestiges du boisé raffiné de l'élevage. Et comment l'accompagner ? La revue 180 degrés suggère de se servir sur place et 180 degrés Celsius. Et se servir sur place et si vous êtes dans l'Aubrac, par exemple, de déguster une tomme fraîche pourvue d'un goût ardemment lacté. Elle a également la propriété de filer avec succès quand elle est fondue, ce qui fait d'elle la championne de l'aligot. Et si vous arpentez la Savoie, croquez dans un reblochon fabriqué à partir de lait cru et entier de vaches tarines ou abondance, qui exprime à la belle saison les arômes de l'herbe fraîche et des fleurs broutées dans les alpages. L'histoire de ce fromage est d'ailleurs édifiante. Autrefois, les propriétaires exigeaient des paysans exploitants une redevance en fromage calculée sur la quantité de lait produite. Du coup, les fermiers pratiquaient une traite incomplète, puis reblochaient leurs vaches sitôt le contrôleur passé. Blocher signifie pincer le pis de la vache. Avec ce lait plus gras et crémeux que le premier, ils élaboraient le voluptueux et démocratique reblochon. À lire aussi dans cette livraison de la revue 180 degrés Celsius, le grand entretien avec Maxime de Rostolan, défendeur de l'agroécologie et fondateur de l'association Ferme d'Avenir, convaincu que l'agriculture paysanne est plus rentable. L'agriculture chimique dite conventionnelle, dit-il, n'est pas rentable. Un tiers des agriculteurs gagnent 350 euros par mois. Elle est pourtant largement subventionnée. Il ne suffit pas de dégager un bénéfice purement financier en ignorant tous les impacts de l'activité agricole sur la santé et la pollution de l'environnement. Le PIB de l'agriculture française représente 60 milliards d'euros. Le coût de la dépollution de l'eau, imputable à l'agriculture chimique, si on la décidait, se monterait à une somme équivalente. On devrait donc doubler le prix de tous les produits industriels alimentaires juste pour dépolluer l'eau, sans compter les problèmes de santé dus aux perturbateurs endocriniens. Conclusion, si l'on veut changer le monde, l'agriculture est un formidable levier. Les éditions Imago publient les faits agraires russes de Vladimir Prop, le mémorable auteur d'une morphologie du conte. Parmi les nombreuses fêtes et rituels païens ou religieux liés à la marche des saisons en Russie et ailleurs, il y a évidemment les célébrations propitiatoires à l'occasion des moissons. Dans la Russie éternelle, elles se faisaient en commun dès lors que les exploitations n'étaient pas très grandes. La tâche se déroulait dans la gaieté. Les paysans venus offrir leur aide étaient considérés autant comme des hôtes que comme des travailleurs. Le rituel le plus important était celui de la première gerbe, dont on ajoutait les grains réputés avoir une vertu spéciale aux semences destinées à l'année suivante pour qu'elles lèvent et poussent bien. Mais la dernière gerbe était l'objet d'attention toute particulière. On la tressait en un faisceau d'épis laissé en terre et baptisée la barbe, boroda en russe, un mot dont la racine indo-européenne a le sens de végétation. Parfois, elle prenait la forme d'une couronne qu'on portait à la maison pour favoriser la prospérité de l'économie domestique, ou encore on donnait la dernière gerbe d'avoine en pâture au bétail au moment où on le faisait passer à la nourriture d'hiver, tout cela de manière à rendre la force que les épis ont tirée de la terre. 6h45 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections présidentielles en Tunisie vont-elles consolider la démocratie ?
Oui, présidentielles avec un peu d'avance sur le calendrier électoral puisque la mort le 25 juillet dernier du président Béji Caïd Essebsi a quelque peu bouleversé les choses. La présidentielle aura lieu avant les législatives et non après comme prévu. C'est la première élection présidentielle depuis qu'est entrée en vigueur la nouvelle constitution tunisienne, la deuxième depuis le printemps arabe dont elle a été la Tunisie pionnière et qui est la seule parmi les pays où avait soufflé ce vent nouveau en 2011, la seule qui ait gardé le cap. En Syrie, au Yémen, en Libye, les expériences révolutionnaires se sont soldées par la guerre civile. L'Égypte a été reprise en main par l'armée. La Tunisie reste donc une exception. Et nous sommes en ligne depuis Tunis où il est 1h de moins, 5h46. Tunis s'éveille. Bonjour Madi Elouche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique, membre de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique. Vous êtes aussi expert de la Fondation Jean Jaurès. Alors, au cours de la campagne qui s'achève pour cette présidentielle dimanche, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez lu, Madi Elouche, ici ou là, chez certains candidats ou au détour de quelques programmes électoraux, des bribes de tentations de retour en arrière, de « on est allé trop loin », des tentations contre-révolutionnaires ?
Pas vraiment. Alors, ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est que la seule candidate qui est a priori pour le retour en arrière, qui prenait le retour à la dictature, qui faisait l'éloge du régime de Ben Ali, qui est Habib Moussi, qui a bâti toute sa popularité sur ce discours-là nostalgique pour le passé de Ben Ali, cette candidate-là s'est trouvée obligée pendant la campagne électorale d'adopter un discours différent. Peut-être dans une stratégie de dédiabolisation et son slogan de campagne est d'ailleurs démocratie responsable, liberté garantie. Donc même la seule candidate ouvertement contre-révolutionnaire en Tunisie était obligée d'édulcorer son discours pendant la campagne électorale pour dire que il n'y a pas de risque de retour en arrière concernant la démocratie et la révolution.
Dites-nous.
Ce qu'on remarque par contre chez certains candidats, c'est des promesses de modifier la constitution pour remettre en cause le régime politique, c'est-à-dire de revenir vers un régime présidentiel, non plus un régime plutôt parlementaire, comme c'est le cas actuellement. Ça, on le trouve chez plusieurs candidats par contre, qui estiment que voilà, le régime parlementaire a échoué et que c'est ce régime-là, ce choix-là, qui est la cause de certains problèmes institutionnels de gouvernance dans ce pays et que voilà, la Tunisie, le seul régime politique qui convient à la Tunisie est le régime présidentiel.
D'ailleurs, la Tunisie s'est dotée d'une constitution en 2014, mais elle n'a toujours pas de cour constitutionnelle. Donc en fonction de qui sera élu président ou présidente, sait-on jamais, il y a deux femmes candidates, bon, qui a priori dans les sondages ne sont pas très hauts, mais quel danger ça peut représenter qu'il n'y ait pas de cour constitutionnelle ?
Oui, le fait qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle, d'abord, c'est un problème pour la période qui est passée, parce qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui n'ont pas été soumis à la Cour constitutionnelle, alors qu'il y avait beaucoup de soupçons d'inconstitutionnalité, parce qu'il y a une instance provisoire, mais qui n'a pas du tout les mêmes garanties de la Cour constitutionnelle. Concernant les élections, la Cour constitutionnelle n'a pas de rôle particulier. C'est le tribunal administratif, par exemple, qui contrôle les résultats des élections et toutes les décisions que prend l'instance qui gère les élections. Alors, Ceci dit, il y a peut-être un problème qui sera causé par l'absence de cette Cour constitutionnelle, qui est le cas de Nabil Karoui.
Alors, ce candidat populiste dont il était question dans le journal de 6h30 et dont on a entendu dans le journal de Clara Lecoq-Réal que c'était un peu le Berlusconi tunisien.
Voilà, et qui est actuellement en prison, qui est arrêté dans une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Et il est premier ou deuxième dans les sondages, en tout cas il est haut dans les sondages, il a ses chances d'être qualifié au second tour, peut-être de gagner des présidentielles, alors qu'il est toujours en prison. Et là, la question se posera, est-ce qu'il pourra bénéficier de l'immunité alors qu'il est prisonnier, ou est-ce qu'il restera prisonnier, donc privé de cette possibilité même de prêter serment et d'exercer son mandat de président de la République. Bon, ceci dit, il n'est pas encore président, il n'est pas encore élu, le premier tour n'a pas encore eu lieu, mais c'est un problème éventuel que seule une cour constitutionnelle pourra justement résoudre.
Et en quelques mots, Maddy Elosh, toujours au sujet de Nabil Karoui, est-ce que sa détention provoque des débats sur sa personnalité, ses agissements, ou sur l'indépendance de la justice en Tunisie? Parce que c'est quand même celui qui était vraiment parti très très haut dans les sondages au tout début de la campagne et qui a été mis sous les barreaux rapidement.
Absolument. Alors, il est clair que Nabil Karoui n'est pas du tout la victime parfaite d'un système qui ne voit en lui que le premier des sondages, qu'un rival politique. C'est-à-dire que des dossiers de corruption existent, il y a même des enregistrements fouillés qui prouvent que dans sa chaîne télé, dans ses équipes de rédaction, il organise des campagnes de dénigrement contre ses adversaires politiques. Ceci dit, il a travaillé très calmement pendant des années, et il n'a été arrêté, et le procès, l'affaire qui le concerne n'a été sérieusement examinée que le jour où il a déclaré son intention d'être candidat.
Voilà. Maddy Elosh, est-ce que aujourd'hui, on est en 2019 comme en 2014, dans le cadre d'une campagne qui oppose, pour le dire vite, modernistes d'un côté, en tout cas ils se surnomment eux-mêmes comme ça, c'est-à-dire on peut dire centristes, et islamistes de l'autre?
Pas vraiment. En tout cas, si on compare avec 2014, la campagne de 2019 est beaucoup moins dominée par cet enjeu ou ce clivage identitaire entre modernistes et islamistes. L'une des raisons est que, après 5 ans de consensus, disons, entre modernistes et islamistes à la tête de l'État, les tensions ont été beaucoup amoindries. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la famille moderniste part éclater dans ce scrutin. Il y a beaucoup de candidats, ce qui fait que la bataille est plutôt rude entre ces candidats modernistes, entre eux, et non pas entre le candidat moderniste et le candidat islamiste. D'ailleurs, l'une des nouveautés de ces élections est qu'il y a un candidat islamiste, c'est que le parti Ennahda a choisi de présenter un candidat de ses propres rangs, ce qui n'était pas le cas en 2014.
Abdel Fattah Mourou, alors vous dites parti islamiste, eux disent qu'il faut dire maintenant musulman démocrate. Et d'ailleurs, Abdel Fattah Mourou lui-même ne se présente pas comme islamiste, mais comme conservateur. Est-ce qu'il joue sur les mots ou est-ce qu'Ennahda a vraiment opéré un changement depuis 2011, date à laquelle il est de fait sorti de sa clandestinité avec l'avènement de la démocratie?
Six changements il y a, il devait être depuis 2014, non pas 2011, parce que les 3 années que Ennahda a passé au pouvoir, c'était bel et bien un parti islamiste. Après, depuis notamment sa défaite aux élections de 2014, il y a certains changements, en tout cas dans l'apparence, dans le discours, dans les visages que présente ce parti-là. Est-ce qu'il a vraiment opéré une transition vers un parti musulman démocrate, comme ils disent ou pas? Je pense qu'il est encore tôt pour juger. Ceci dit, il y a certaines avancées, en tout cas dans le discours, ce qui participe à ce climat où il y a moins de tensions identitaires, parce que Ennahda justement n'a plus le même visage que celui de 2011 ou 2012. Après, la candidature, et c'est très important de le rappeler, c'est que Ennahda n'allait pas présenter de candidat de ses propres rangs, parce que Ennahda sait très bien qu'en Tunisie, elle a de très faibles chances d'être, de gagner des élections présidentielles. C'est-à-dire que tant que c'est des élections à deux tours, n'importe quel candidat islamiste n'a presque aucune chance de gagner un second tour. Le seul d'ailleurs qui a peut-être de petites chances de gagner un second tour, parce qu'il peut quand même rassembler un tout petit peu plus que la base islamiste, est justement Abdel Fattah Mouloud.
Alors, justement, Ennahda mise plutôt sur les législatives. On dit qu'il est en mesure de présenter le plus de candidats dans l'ensemble des circonscriptions de tous les partis tunisiens. Donc, pour l'instant, il se positionne sur la présidentielle, mais en vue des législatives. Est-ce qu'ils sauront encore mobiliser les jeunes? Rien n'est moins sûr, puisque Nabil Karoui vient un peu leur voler la vedette. Au-delà du personnage, Nabil Karoui, il s'adresse quand même aux plus pauvres. Il dit que c'est à lui qu'il reviendra de faire en sorte que l'inflation diminue, que le chômage des jeunes diminue aussi. Est-ce que la crise économique pourrait remettre en cause le processus démocratique en Tunisie? Vous écrivez dans une note pour la Fondation Jean Jaurès avec votre collègue Louis-Simon Boileau, vous écrivez que le mouvement révolutionnaire marchant sur ses deux jambes que sont la démocratie et le progrès social est à l'arrêt.
L'enjeu socio-économique est peut-être la principale menace de la transition démocratique et clairement un mécontentement social et ce qui fait que justement ça alimente une tentation de vote sanction. Nabil Karoui par exemple essaie de profiter de ce mécontentement là et surtout de sa campagne contre la pauvreté parce que tout son programme est bâti sur une guerre contre la pauvreté. Certains autres candidats populistes aussi essaient de surfer sur cette vague, mais ce qui est sûr c'est que plutôt qu'un mécontentement de la démocratie, bien sûr qu'il existe un certain sentiment comme ça, mais je dirais qu'il y a surtout un mécontentement contre les partis au pouvoir, ce qui fait qu'aujourd'hui, aucun candidat des partis au pouvoir n'est sûr d'être au second tour.
Voilà, c'est ce qu'on dit en Tunisie, qu'il y a la possibilité qu'aucun candidat du camp démocratique ne franchisse le premier tour. Donc on verra élection ce dimanche. Merci beaucoup Maddy Elouche d'avoir été avec nous en direct depuis Tunis, où il est donc 5h56. Vos travaux pour la Fondation Jean Jaurès avec Louis-Simon Boileau sont à trouver sur Internet et on les met sur le site des Enjeux internationaux sur franceculture.fr. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
C'est samedi, ah, comme Woody Allen dans Plan Large.
Il a Manhattan dans le sang. Son nouveau film, Un jour de pluie à New York, comédie romantique, tonique et cruelle, sort en France mercredi prochain. Entretien exceptionnel avec Woody Allen. On parlera de cinéma, de ses méthodes de travail et bien sûr de New York.
Manhattan is a small island with millions of people on it and millions of stories. I love the streets, I love the parks.
Plan Large, par Antoine Guillot, c'est samedi à 14h et sur franceculture.fr.
Comment se construisent et se propagent les complots imaginaires?
Il ne convient pas non plus de s'alarmer.
Mécanique du complotisme, en podcast original.
J'ai fait une petite enquête.
C'est avec les attentats du 11 septembre 2001 que commence la série. Les avions ne se seraient pas écrasés, les États-Unis ou les Juifs seraient à la manœuvre, les thèses sont innombrables.
Le complot auquel vous faites allusion, André, il est bel et bien existant.
Mécanique du complotisme.
Bel et bien existant.
Décryptage en podcast original sur franceculture.fr et sur toutes les plateformes dédiées.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon et bonjour à tous.
Bon, j'ai une question Guillaume Erner. Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grand?
Eh bien, si vous vous posez cette question, Julie, j'ai peut-être une solution. Et si vous deveniez influenceuse ou influenceur? C'est bien ça comme métier, influenceur. Alors, a priori, ça fait un peu visiteur du soir, vous voyez, genre devenez Kissinger ou bien Attali, Minc, Atalink. Mais en fait, non, pas du tout. Influenceur, c'est le nouveau métier qui se développe via les réseaux sociaux, évidemment, et notamment sur YouTube, Dailymotion et autres sites de partage vidéo. Alors, pour le dire de manière abrupte et quelque peu tautologique, l'influenceur est là pour influencer vous, influencer. Muni d'une paire de jeans, d'une crème de beauté ou bien devant une assiette de nouilles, pardon, de spaghettis à la vongolée, je sais que vous êtes sourcilleuse là-dessus. Julie, il est là pour vous convaincre d'acquérir cette paire de jeans, cette crème de beauté, cette assiette de nouilles, enfin bref, vous avez compris. L'influenceur est l'ultime déclinaison de ces bullshit jobs, emploi bidon cher à l'anthropologue David Graeber. Alors bidon, non pas parce qu'ils peuvent être assimilés à un travail véritable, parce que ça c'est pas le cas, mais pas bidon en ce sens qui sont aujourd'hui particulièrement rémunérateurs, probablement plus que le vôtre, peut-être même est-ce un influenceur qui vous a donné l'idée d'acheter ce dentifrice ou bien cette crème lipotenseur que vous allez vous appliquer dans quelques instants avec application. À ce stade, vous vous dites peut-être que vous allez devenir vous aussi influenceur s'il s'agit simplement de se filmer avec vos courses, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Oui, eh ben non, il vous manque l'essentiel, les followers, les personnes qui vous suivent et qui vont faire tout ce que vous faites. Bref, l'influenceur n'est rien sans sans des personnes à influencer. L'influenceur est la version électronique du mimétisme. Tout vous est donné en ce bas monde, y compris la personne à imiter. Et ça marche, les influenceurs influencent, comme le disait Nietzsche en substance. Si vous voulez être suivi par 1 million de personnes, le plus dur n'est pas d'en réunir une, mais tous les zéros qui suivent derrière.